Encore heureux.
Albin de la Simone est un chanteur de nuages.
Arthur Dreyfus.
Les textes et les musiques qu'il invente nous transportent dans une galaxie de douce sérénité. Mais lui, est-il si serein? Et le bonheur, est-ce une affaire d'harmonie? Ce soir, nous lui poserons la question.
Ah, check this out.
Encore heureux. Du lundi au jeudi sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter.
La voix est libre. L'équipe de Là-bas est ici, c'est Là-bas si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet.
Bonjour, vous avez entendu ces paysans bretons, leur intelligence, plein de bon sens, de sérénité, malgré la crise, malgré tout. Et bon sang, pourquoi on les écoute pas plus? Merci, c'était Michel, du Muscadet.
Lucien de Wirtz était un homme politique de droite, mais Lucien de Wirtz était aussi un grand résistant, et c'était surtout le père de la pilule contraceptive, celui qui s'est battu contre vents et marées et contre son propre camp pour faire adopter la loi autorisant la pilule contraceptive en France. Alors tiens, pour une fois, moi, homme de gauche, de la vraie gauche, dans cette émission de gauche, de la vraie gauche, j'ai envie de dire à un homme de droite, Lucien de Wirtz, ben salut, tu nous manqueras.
Bonjour, par rapport au flash d'info de ce matin très tôt, j'ai pas tellement de mots pour dire la violence, mais je crois que c'est plus de la violence, c'est de la barbarie. Quand on entend dans le même flash qu'on a trouvé une famille à Strasbourg avec 4 enfants, dont 2 petits en très bas âge, qui vivent dans leur voiture, et quelques secondes après, d'apprendre que le PDG de Peugeot va partir avec 21 millions d'euros pour sa retraite. Alors moi, 21 millions d'euros, j'imagine même pas ce que ça peut représenter. Mais je trouve ça d'une outrecuidance, d'une... Enfin, je sais plus, j'ai plus de qualificatif pour montrer ce capitalisme plus que sauvage, cette société de fous, et ben, je sais pas où ça va nous mener. Depuis ce matin, ça me tourne dans la tête en boucle, et j'ai pas de solution. Bonne journée à tous, c'était Françoise d'un petit coin du Morvan, voilà. Salut.
En montant dans ton bâtiscaf, pense à elle et aux cornichons. Ce beau sujet de photographe rêvant de quelque chose de rond, cette espérance du chorégraphe lassé de la répétition, cet acquis social du mataf, tu lui reprends, c'est la baston. Pour respecter son orthographe, surtout mets 2 F à son nom, ne lui cherche pas d'épitaphe, elle est éternelle, nom de nom. La boîte de pâté ENAF, c'est du bonheur pour quelques ronds. Qu'est-ce qu'il y a, Francine? Ah, c'est pas du bio. Oh ben merde, on fait chier.
Merci, merci pour tous ces messages, cher ZAMG. Aujourd'hui, Grigny Gang Story. Ouais. Blouson noir, ça vous dit quelque chose? Encore, oui. Bon. Louba, racaille. Ce que les dignes sociologues appellent les jeunes des classes populaires sont, comme disait Pierre Bourdieu, éminent sociologue, parler plus qu'ils ne parlent. Oui, on parle d'eux, mais eux parlent-ils? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est ce qu'a fait Charlotte Perry. Figurez-vous qu'elle est allée à Grigny. D'abord, elle est sortie de Paris pour un journaliste. C'est un exploit. Et en plus, elle est allée chez ces racailles, ces gens extrêmement dangereux, ces bandes. Elle y est allée sans la police. Elle est allée à pied, comme ça. Et puis, elle a parlé avec eux, elle a fait connaissance. Ça a été assez long pour que la confiance s'installe. Mais finalement, tous ces garçons, ce sera essentiellement des garçons, ont accepté de se raconter. Parce que si on dit Grigny, et surtout si on dit la Grande Borne, eh bien, on parle tout de suite, on pense tout de suite délinquance, violence, et on n'a pas entièrement tort, mais c'est pas entièrement vrai. On le verra dans ces 2 volets, aujourd'hui et demain. Il y a encore du pépère qui joue tranquillement à la pétanque. Il y a des tas de gens qui vivent tout à fait normalement à la Grande Borne. Mais effectivement, il y a des gens assez turbulents et assez délinquants. C'est pas faux du tout. Mais ça suffit pas à les portraiturer et à dire qui ils sont. Il y a aussi de l'invention. il y a du sport, il y a de la frime, il y a de la musique, il y a de la rage, et puis il y a tout simplement une envie de se raconter, parce que c'est en se racontant qu'on existe, que tout d'un coup, tiens, voilà, les mots qui me viennent, ben ça fait un récit, ça me fait exister, ça me fait réfléchir, et c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Voilà notre thème du jour. Grigny, Gang, Story. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Demande au PDG qu'il y renonce. Un PDG qui vient de faire signer au syndicat un nouveau contrat social prévoyant davantage de flexibilité pour les salariés et un gel de leur salaire pendant un an. Chez PSA, on estime être dans la normalité absolue avec cette retraite chapeau parfaitement classique. Cela n'a rien à voir avec un parachute doré, nous dit-on. Et l'on insiste sur les bonnes pratiques de Philippe Varin qui a abandonné sa part variable deux années de suite. Mais certains lui conseillent déjà de faire un geste si en effet il décide de toucher sa retraite chapeau.
Salut Daniel, salut les AMG. C'est Ahmed du 93. J'appelle parce que j'ai travaillé plusieurs années dans le monde de la viande, dans le halal exactement, ou le halal, bon, qui est entre guillemets, qui a été décrié ces derniers temps. En l'occurrence par Marine Le Pen qui affirmait que la plupart des viandes étaient halal et que les gens n'étaient pas au courant qu'ils les mangeaient. Bon, déjà, si tu as apporté un démenti sanglant, c'est totalement faux. Il y a extrêmement peu de viande abattue en Ile-de-France et même en France qui est halal, digne de ce nom. En revanche, il y a beaucoup de faux halal. Et là, c'est l'objet de mon appel, de mon message. Alors, on a vu, je ne sais quelle société des employés défoncer la préfecture de Morlaix, il me semble, pour réclamer des aides européennes qui ont été coupées pour l'exportation. En revanche, ce qu'ils disent moins, c'est ces employés, c'est que le groupe Doux, qui a coulé, et cet abattoir aussi, dont j'ai oublié le nom, ces petits abattoirs, en fait, s'amusent à envoyer du faux halal dans les pays du Moyen-Orient. Alors, bien entendu, ils prennent des belles enveloppes pour ça, donc c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils n'ont aucun scrupule. Et par contre, personne n'a jamais parlé de cette arnaque qui existe, hein, qui est avérée, en l'occurrence avec Doux. Personne n'a parlé de ça. En tant que croyant, je parlerai de justice divine. Mais bon, j'en suis pas forcément content qu'ils perdent leurs emplois. Mais par contre, ça serait bien de soulever ce sujet. Parce qu'à force de nous désinformer et de nous faire peur sur l'islam, on passe à côté de pas mal de choses. En l'occurrence, ces petites arnaques de nos chères sociétés françaises, spécialistes dans le faux halal, qui arnaquent des milliers de gens, qui continuent en tout cas à lutter pour leur travail et leurs conditions, mais dans l'honnêteté, ça leur ferait pas de mal. Salut à tous.
Allô, je suis sur la place, là.
La guerre des gangs aujourd'hui, c'est face à l'État. Eux aussi, c'est un gang. Eux, ils ont leur gang, c'est l'État. Nous, on a notre gang, c'est le game. Le game, c'est la street, c'est les bails, c'est où tout se passe. Voilà.
C'est du game.
On parle des gangs, nous on parle des gangbangs.
Ça s'adapte à l'ennemi.
Tout
le monde s'est déjà battu. Hein.
Il n'y a pas de gang, c'est gangbang.
Se bat jusqu'à la mort, c'est ça un guerrier. Un guerrier, c'est celui qui rentre, il n'a pas peur. Il fait ça pour l'honneur.
Vous connaissez pas.
Pour certains, d'entendre Grigny, c'est
comme s'ils entendaient les États-Unis en France.
Si là tout de suite, on leur proposait d'aller en enfer. Là tout de suite, voilà. Grigny, tu vas pas au paradis, tu vas en enfer.
Les filles, elles sont où? Parce que là, vous êtes tous entre mecs seulement.
Là, il n'y a pas de filles là, à côté de nous. Les filles sont là aussi, ils sont dans leur coin, les filles.
Il n'y a pas de filles aujourd'hui. Hein.
Bah, tout le temps, il n'y a pas de filles.
Sinon, cette interview, c'est pour aboutir à quoi, en fait? De quoi ça repiche, hein? Voilà, c'est normal.
Si, c'est vrai.
Ah là, c'est vrai.
C'est vrai.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis, avec Charlotte Perry Grigny. Gang Story.
Flight number 2, arriving from New York.
Attends, excusez-moi.
Vous n'avez pas envie de planter des carreaux? Vous n'avez pas de cigarettes, s'il vous plaît?
Il y a cher, les cigarettes.
Ah, c'est Carmen en plus.
Il faut les braquer.
Waouh, c'est nous!
Tranquille, voilà.
Non!
Bonjour.
Douma est là. Bosca est là.
Vinka est là.
Kalash est là.
Scar est là. Kokain est là.
Tout le monde est là.
Hey, Kokain.
Oh,
on
dit Kokain,
Kalash. Kevin Okoko est là.
Les bâtards.
Parce qu'on est, on est des cités, tout le monde dit on est des voyous. On n'est pas des voyous, c'est pas parce qu'on traîne dehors, on est là. Enfin, si on est là, c'est parce qu'il y a des gens, ils sont là. S'il n'y a personne, on va rentrer chez nous tous. On est d'accord. Donc quand il y a des gens, on est là.
Ce qu'on veut pas dire, c'est qu'on traîne en bande là quand même. Hein. Non, c'est une façon de le dire, on traîne en bande. Hein.
On va pas marcher, on va aller à la.
Vous pouvez nous voir, on est une dizaine, on est une vingtaine. Ça ne gille pas, on est chez nous. On est posé, donc ça s'accumule, un passage, ça se dit bonjour, ça se parle, ça se raconte nos vies, ça fume, ça.
Nous, on vend pas, nous, on consomme seulement. On mange tous les jours. Et c'est ça la force.
On prend déjà, comme ils disent,
le petit déj.
Le truc qui le fait, qui cause des problèmes à l'État français.
Au gouvernement.
Nous, on est dans la BTG, Black Trop Gangsta.
Moi, c'était la brigade à tout casser, BATC. Ça veut dire, dès qu'on arrivait, on plaisantait pas.
Franchement, on se bat plus.
On n'est pas à l'abri.
Mais on n'est pas à l'abri. La violence, il en faut absolument. Sinon, on serait pas, au jour d'aujourd'hui, on serait pas ce que nous on est ou ce que Grigny est, quoi. Donc, vu qu'on représente Grigny, ce que Grigny est. C'est la violence qui a abouti quelque chose pour qu'on puisse faire ça, faire ci, faire ça. Donc, comme on dit, la violence, il en faut. Même quand tu crées une bande, il y en aura toujours une violence.
On va aller là-bas à Paris, juste parce qu'on vient de Grigny, on va se battre. Juste parce qu'on vient de Grigny, on va se battre. Parce qu'on vient de Grigny. Mais avec des autres gens, n'importe qui.
Non, Grigny, c'est pas n'importe quoi. C'est, on dit Grigny, c'est quelque chose. Nous, on est fiers de le dire, nous, Grigny. Mais ce Grigny-là, c'est pas nous qu'on l'a fait. Ouais, on le fait au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas nous qui l'avons fait. On essaye aussi, on fait avec les moyens du bord, comme il a dit. Voilà. Mais
les grands, tu vois, moi, j'ai aimé leur façon de s'exprimer parce que c'était une bonne raison. La raison, elle est valable et. Même là, si aujourd'hui on parle là, comme on est là, posé tranquille, c'est même grâce à eux là. Il y a un boulot qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait et c'est reconnu. Et on sait que c'est reconnu partout où on sait, c'est reconnu. Mais aujourd'hui, on va pas vous mentir, c'est plus les mêmes motifs qu'avant. C'est tout plein de bêtises. Tout. Pour tu me regardes pas, tu me regardes mal, pour un nique ta mère ou tu m'as piqué ma meuf, ça part loin. Hein. Franchement, ça part très loin. Ça fait des guerres. Ça, c'est parti d'une personne. C'est parti d'une personne à 10 personnes. À 10 personnes, c'est parti à. Il y en a un, il s'est retrouvé à l'hôpital. Coma. Tout plein de bêtises comme ça. Je rigole, mais c'est dommage. Mais voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui.
Deux policiers ont été blessés à coups de fusil de chasse la nuit dernière lors d'échauffourées dans le quartier de la Grande Borne à Grigny, dans l'Essonne.
Samedi soir, vers 22h, un commando a pris d'assaut un train arrêté en gare de Grigny. Les détails de cette attaque digne d'un western sont à peine croyables.
Ici, dans ce quartier, la psychose s'est installée. Qui a pu abattre cette femme et surtout, pourquoi ?
Je travaille le matin très tôt. Quand je pars, il fait nuit. J'ai peur.
Dans l'actualité également, des policiers pris pour cible à Grigny dans l'Essonne, certains par arme à feu.
6 cocktails Molotov et un fusil de chasse.
J'ai peur.
Attention, au détectif intervenant qui arrive par Stephenson.
Alors, vos impressions ? La trouille, le rejet, l'indignation, ou au contraire, les excuses sociologiques, vous vous souvenez du monsieur Jospin qui s'opposait aux excuses sociologiques. La violence dont parlent ces garçons, elle a l'heure de violence. Il dit qu'il en faut de la violence. Qu'est-ce que c'est que cette violence par rapport à celle dont ils font effectivement l'objet ? C'est-à-dire la disparition complète de boulot, la précarité totale, l'affaiblissement des structures scolaires, le racisme, etc. Enfin, on connaît tous ces stigmates extrêmement violents, dont sans doute le plus violent est l'absence totale d'horizon. L'absence totale d'horizon et l'absence totale d'espoir, d'ascension. Tout ça, on le sait par cœur, des quantités d'articles, de bouquins, d'études ont été faites sur ce monde. Des interprétations de toutes sortes ont été faites sur les bandes des quartiers populaires, la jeunesse des quartiers populaires d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier. Comment est-on passé de la banlieue rouge au quartier dit sensible d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a glissé, etc. Toutes ces études sont faites, sont connues, mais que disent-ils vraiment? Que dit ce monde-là? Que disent ceux qui sont à ce point regardés, observés depuis si longtemps? Ils ne parlent pas facilement. Ils sont très très déçus de la façon dont ils sont montrés, dont ils apparaissent dans les médias. Et pour eux, entre un flic de la BAC et un journaliste, c'est la même chose. Ils ne font pas de différence. Charlotte Perry a été rusée, était sincère. Elle est venue seule, à pied, rencontrer ces gars-là. Elle a mis du temps pour obtenir leur confiance. Et voilà ce qu'elle a, ce qu'ils lui ont confié, ce qu'ils ont raconté. Écoutez bien, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui va être dit là et qui en disent long sur ces mondes si fantasmés. C'est jusqu'à 16h. C'est la base Si j'y suis. C'est Grigny Gang Story.
On n'a pas voulu, après nous avoir pillés, la France continue à nous humilier. Discrimination sociale, raciale, inégalité économique, répression. Ouais, la France nous met la pression, c'est dans la tête que ça se passe. Mais on veut pas se laisser faire, on veut notre part et du respect. Conserver notre liberté, pas de menottes au poignet, c'est la guerre. On n'a pas souhaité, mais c'est la guerre. Grandir en cité, tu le sais, c'est la guerre. Inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre. La France veut nous faire du mal normal, c'est la guerre. On cherche à s'en sortir, ma sœur, c'est la guerre. Pour construire un avenir meilleur, c'est la guerre. On se bat pour nos parents, on comprend, c'est la guerre. On veut pas que nos enfants galèrent, donc c'est la guerre. Les pays qui a l'euro, on souffre, c'est la guerre. La France est au bord du gouffre, c'est la guerre. Y'a plus de thunes nulle part, c'est ouf. C'est la guerre, bien sûr, c'est aux plus pauvres qu'ils ont déclaré la guerre. Hamza, au Renoir, on sert de bouc émissaire. Ils n'ont que deux projets pour nous, prison et misère. Si tu veux des sous et du respect, fais la guerre. J'ai beau aimer la paix, mais je peux pas nier, c'est la guerre.
Plus mesure, mieux s'excuse, mon frère, c'est la guerre. Comment réussir à s'en sortir avec un petit salaire? T'as toujours l'impression de marcher les couilles et le cul à l'air. Sa mère, c'est le champ de bataille, son terre-terre. Unité, char d'assaut, tank, hélicoptère. L'État nous met un max de pression, mais on lâchera pas l'affaire. Car j'ai trop mangé la gamelle, côtoyé la misère. Le seum se libère quand les menottes se resserrent.
La guérilla urbaine pour mes parias. Guerrier 9-4, on joue en série A. Cruels sont nos ruelles, nos peuples, nos politiques cherchent le duel. Juste des larmes et des corps au bout du tunnel. Des hordes s'enflamment en banlieue, en haut lieu. Ça se liquide dans le milieu. Ça tranche dans les zones franches, ça rend bien périlleux. Je m'entends même plus crier, ça tire, tout se déchire dans ce brouhaha. Tellement de faits d'armes et de faits divers dans tous nos trois.
Guerre.
Ouais, Kizo ?
Ouais.
C'est Charlotte. Ça va et toi ?
Ouais, ça va.
Je viens d'arriver en fait, je suis à la gare là.
À la gare ? Ok, bah j'arrive tout de suite.
Ok, à tout de suite. Je suis à l'arrêt de bus, en face du centre commercial.
Ok, parfait.
À tout de suite. Ça va et toi?
Ça va?
Ouais, bien. Là, en fait, on a quitté la gare de Grigny et là, on se dirige vers la Grande Borne. Le quartier de la gare, c'est un peu le centre de Grigny.
Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle Grigny Centre. C'est Grigny Centre. En fait, Grigny Centre, c'est l'une des plus grandes résidences de France.
On l'appelle aussi Grigny 2, c'est ça?
Voilà.
C'est les grandes tours qu'on voit à côté de la gare,
voilà.
Genre de 15 étages.
Voilà, c'est ça.
On dirait presque un peu une forêt d'immeubles, tellement ils sont serrés.
Ouais. Mais bon, à l'époque, on disait les jeunes, hein, les jeunes traînaient déjà devant la gare. À l'époque, t'avais ce qu'on appelait les rebelles, c'est-à-dire des rockers plus ou moins fascistes, qui écoutaient du rockabilly, qui traînaient avec les skins de Juvisy qu'on appelait Légion 88.
8-8, parce que le 8, c'est la 8e lettre de l'alphabet, voilà, le H.
La 8e lettre de l'alphabet, les deux lettres, ça fait HH, qui signifie Heil Hitler.
Donc c'était vraiment des groupes néo-nazis.
Néo-nazis. Donc ils traînaient tous là.
À la gare, là.
Ouais, à la gare.
C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de rebelles et beaucoup de skinheads à Grigny.
Voilà, beaucoup de rebelles, beaucoup de skinheads dans cette gare. Et ce qui s'est passé, il y a eu un ras-de-bol. Les félins chasseurs de skins qui sont nés en 88, alliés aux Fat Boys, qui sont nés entre 86 et 87, ben, ils sont réunis, ils se sont dit ben, faut qu'on fasse le ménage parce que c'est pas normal qu'on circule, qu'on se fasse toujours frapper. C'est pas normal qu'on circule, que les maires se font insulter, ils en ont eu marre et ils ont fait en sorte de les chasser du quartier, quoi. Enfin, de la gare, on va dire.
Et là, on est où ?
Ici, on est à Grigny Village, entre Grigny Centre et la Grande Bombe. Là, t'as la mairie ici. Et derrière la mairie, il y a énormément de pavillons. La Grande Bombe. Elle ressemble plus à un labyrinthe. Dans le sens où les bâtiments sont en forme de zigzag. Très souvent. Et ça rappelle un labyrinthe.
Là, on est rentré dans la Grande Bombe, en fait.
On est dans la Grande Bombe. On est entre le quartier du Méridien et la Carpe. La Grande Bombe, là où j'habite. Depuis 32 ans. Comme une peine de prison.
La Grande Borne à Grigny, vous connaissez ? Cela mérite vraiment d'être visité.
ORTF.
C'est un grand ensemble de 3000 HLM.
1972.
Dans lequel vivent depuis un peu plus d'un an 15 000 personnes. Oh, des gens qui ne sont sans doute pas beaucoup plus heureux qu'ailleurs, que dans d'autres grands ensembles. Mais à la Grande Borne, il y a quelque chose de différent. Il faut reconnaître les efforts du constructeur, l'Office interdépartemental d'HLM, de la région parisienne, pour offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable, peut-être plus beau, en tout cas plus insolite, que tous ces quartiers ternes et monotones, réalisés depuis 20 ans dans nos banlieues. Et cet effort-là, pour des HLM, n'a pas coûté plus cher, croyez-nous. On comptait.
Donc ici, là, on est à la Grande Borne.
Voilà.
Toi, t'as grandi où, dans ce quartier-là ?
Non, moi, j'ai grandi à la place de l'œuf.
C'est où ?
Bon, on va voir.
En fait, la Grande Borne, à la base, ça a été construit à la fin des années 60 par un architecte qui s'appelle Émile Ayot, c'est
ouais,
ça
Oui, Émile Ayot, il a voulu faire de la Grande Borne, comme il dit, un quartier d'enfants. Dans le sens où c'est renfermé, les bâtiments nous font rire parce que c'est un peu en forme de serpentin.
Ils sont très colorés.
Très colorés, ouais, très colorés. Mais au final, il s'est rendu compte qu'il a plus enfermé les gens qu'autre chose. C'est l'un des seuls quartiers où tu ne circules pas à l'intérieur. Tout se passe autour, c'est comme une île. C'est-à-dire que tu circules autour du quartier. Et quand il y a le feu, ou quand il y a une personne qui est malade, les pompiers ont du mal à accéder au quartier.
Est-ce que les voitures ne peuvent pas rentrer à l'intérieur ?
Bah, il y a des barrières, mais à 1h du matin, si tu n'as pas les clés, c'est difficile pour y accéder.
On arrive sur une place ?
C'est la place de l'œuf.
C'est la place de l'œuf ?
Moi, j'habitais le bâtiment qui était ici, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne le voit plus, donc il a été détruit. J'ai mon père, lui, qui travaillait à l'ambassade du Congo. Il était journaliste. J'ai ma mère qui est aide-soignante.
Et toi, t'avais fait partie aussi des bandes ?
J'ai fait partie d'une bande. On s'appelait la MZ. On traînait en face, là, dans le bâtiment qui est en face, là. Le troisième hall. Donc voilà, Mafia Z. Z pour définir un Zaïrois qu'on appelle aujourd'hui en congolais.
Mais vous n'étiez pas tous Zaïrois ?
Non, non. Il y avait un Togolais, il y avait un Français qu'on appelait Mundele. Mundele, ça veut dire blanc en ma langue. Il y avait un Ivoirien, le reste que des Congolais. Moi, je suis rentré dans la bande parce que je me promenais dans un centre commercial qui était collé à une gare à Ivry. Et il y a eu une histoire, il y a des gens d'Ivry qui ont sorti un flingue, ils ont tiré sur mon pote à la jambe. À partir de là, le soir même, on a riposté. Et il y a une personne qui a aimé mon attitude, qui m'a demandé de rentrer dans la bande et j'ai accepté. Dans le secteur, ne serait-ce qu'à Évry et Corbeil, Il y a eu énormément de morts. On peut compter plus de 10 morts en 10 ans.
Ces conflits, ils étaient basés sur quoi ?
Souvent, les conflits sont basés sur la réputation. Comme à l'époque des Blousons Noirs. T'as Bastille qui est en conflit avec ceux de République. Pourquoi ? Ben, c'est une question d'affirmation. C'est-à-dire qu'on se montre pour montrer qu'on est les plus forts. Et la bande rivale, ben, à son tour, se montre aussi pour montrer qu'elle existe aussi et qu'à son tour, elle est aussi plus forte. Et on se base sur rien, on se base seulement pour la réputation du quartier. Et je me bats pour le quartier, je meurs pour le quartier. Le guerrier, il se bat pour sa terre, il se bat pour ses confrères, il se bat jusqu'à la mort, c'est ça un guerrier. Un guerrier, c'est celui qui rentre, il n'a pas peur. Il fait ça pour l'honneur. Mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin ? Une mère qui pleure, un père qui pleure, une famille qui enterre leurs enfants. Et voilà, rebelote. On a reproduit ce que les bandes faisaient déjà depuis bien longtemps. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est nouveau, les armes, les jeunes tirent sur la police. Mais en 1902, il y avait 30 000 Apaches sur Paris et il y avait déjà des policiers qui mouraient, qui se faisaient tuer. Donc, il faut le dire, c'est vrai, mais arrêtez de faire croire que c'est nouveau.
On comptait 13 000 jeunes délinquants en 1954, on en a dénombré plus de 19 000 l'an passé. Et ça continue.
ORTF, 1966.
C'est ici, dans cet appartement, que les choses se sont passées. Hier soir, 20 ou 25 jeunes gens, ceux que dans le quartier on appelle les blousons noirs, sont arrivés ici, chez vous, et vous ont frappé.
C'est exact, oui. Ils ont fait fracture à la porte, ils ont démoli la porte et tout. Je m'y suis battu, quoi. Je suis tombé par terre, puis ils ont lancé un coup de pied en ventre à mon chien, quoi.
Bonjour.
Bonjour. Tiso, là, on est toujours à la Grande Borne, à Grigny. Toi, c'est le quartier où tu as grandi.
Voilà.
On est juste à l'extérieur de la place du Damier. Là, il y a un ami à toi qui nous a rejoint.
Enfin, c'est pas un ami, c'est un grand frère.
Vous appelez comment ?
Don Cisco.
Don Cisco ?
Ouais.
Donc vous avez intégré les félins, c'est ça ?
Ouais. En fait, voilà, je faisais partie d'une élite qui combattait les skinheads et le racisme. Qu'on apprenait à étudier leur comportement, leur façon de faire. Toutes les théories qu'ils avaient de la discrimination sur les Noirs, sur la race et tout le reste. Et là, on a découvert que ben, c'est des personnes organisées. On s'est organisé comme eux. Donc on était très, 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 très réservés, très calmes. Et on faisait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire s'entraîner et les connaître. Surtout les connaître. Donc énormément de bouquins, beaucoup d'appréhension à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Les entraînements, les capacités qu'ils avaient, les aides qu'ils avaient, l'argent qu'ils avaient, les compagnies qu'ils avaient. Donc on savait tous deux et voilà, c'était un combat différent. C'était pas simplement physique, c'était aussi intellectuel. Donc on connaissait les droits, code civil, droit civique, tout ce qui était du droit. C'est ça le vrai combat en fait. C'était une chasse plus en profondeur on va dire. Il y a aussi les Black Panthers des États-Unis qui nous ont donné une influence importante parce que ils nous ont donné un code. On n'avait pas le droit, par exemple, de se battre avec n'importe qui, pas le droit de s'habiller n'importe comment. On était uniformisés, voilà.
C'était quoi l'uniforme ?
C'était bomber, c'est pantalon noir pour être discret, et des Doc Martens, comme les skinheads en fait.
Des Doc coquets ?
Coquets, bah oui, comme les skinheads. On était comme eux. On s'adaptait à l'ennemi. Hein. Ils appelaient ça des écrases nègres. Voilà.
Ah ouais.
Ouais, vous pouvez les voir dans la rue, normalement, ils avaient des lacets blancs. Une petite crête, ils étaient habillés en rebelle et ils rigolaient pas. Vous allez dans des bars, vous aviez au moins une vingtaine de personnes rasées. Avec des vrais crânes rasés, énervés, avec des tatouages, tout. Mais c'était très impressionnant.
Vous aviez quel âge à cette époque-là ?
Entre 16, 18 et après, bon, voilà, on est dedans. C'est des gens armés, c'est des gens dangereux. C'est des gens très, 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 très dangereux. C'est pas un jeu. C'était une petite guerre civile parce que justement l'État voulait pas comprendre qu'il y avait des personnes qui a essayé tout et n'importe quoi. Après, quand tu tombes sur un groupe qui est capable de leur tenir tête, ça devient différent. Ça leur permettait de savoir qu'ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait des chasseurs, donc ça changeait la donne. Mais on n'avait pas les armes. On n'avait pas, nous, le droit. Par exemple, dans une journée, nous, on était contrôlés 4 ou 5 fois dans la journée.
Par la police ?
Bien sûr, par la police. Parce qu'on était encore considérés comme des étrangers. En étant noir, on est étranger. En étant arabe, on était étranger. Mais pourtant, on avait des blancs avec nous. Des blancs aux yeux bleus qui n'acceptaient pas l'extrême droite. Donc, on apprenait à se combattre main nue, boxe, arts martiaux, self-combat.
Et du coup, il y a eu des séquelles, des blessés, des morts.
Oh, ça, je sais pas, je rentre pas dans ces détails-là, je sais pas. Je cherche pas à savoir si la personne qui jette par un pont est mort ou pas. Nous, on les a laissés comme ils devaient être sur le terrain et puis on a continué notre chemin.
Imaginez des voyous, le crâne rasé, chaussé de rangers et qui veulent à tout prix bouffer de l'arabe un certain soir de 15 août. Bilan, plusieurs jeunes beurs blessés. Cette scène de virée raciste s'est déroulée à Châteauroux. Les auteurs sont ceux qu'on appelle des skinheads.
FR3, 1983.
23h30, Châteauroux est soudain tiré de sa somnolence. Deux adolescents, crâne rasé, attaquent un Français. Ils l'accusent de vendre de la drogue. Puis ils s'en prennent à un jeune Africain. Bientôt, ils sont 5, 10 skinheads. Ils déboulent sur la place de l'hôtel de ville. Avec des battes de baseball, ils se mettent à frapper des maghrébins.
On est assis sur le banc, là, sur la place de la mairie. Tranquillement, on est en train de discuter avec des copains. Et de seul coup, on voit un mec arriver, en train de nous insulter, sale nègre et tout. Et puis, il a essayé de nous attaquer, on ne s'est pas laissé faire.
Oui, la France est une poubelle, et nous en sommes les déchets. Enfants maudits des temps modernes, il ne nous reste que la haine. Alors on brûle quelques voitures, pour oublier le temps qui dure. En attendant que la police fasse régner l'ordre et l'injustice. Fasse régner l'ordre et l'injustice. Oui, la France est une poubelle, mais frère, nous en sommes les déchets, mes frères. Pendant que les riches font au soleil, mes frères. Nous on crève dans les HLM, mes frères. Tout est fait pour nous diviser, à chacun sa communauté. Mais si un jour on s'unissait, que vraiment on se mélangeait, on irait tous à la Bastille, prendre les riches et leurs familles. Et on chanterait en sirotant des packs de 16. Oui, la France est une poubelle, mes frères. Nous en sommes les déchets, mes frères.
D'un côté, les rebelles, s'ils se réclament d'une musique blanche, leur emblème, le drapeau sudiste, le tout sur fond de racisme.
De l'autre côté, les Black Panthers,
FR3,
plus organisés, leur obsession contre les rebelles.
17 août 1987.
Là, on est place de l'église.
Place du Seigneur.
Je m'appelle Sid.
Vous êtes de la Grande Borne aussi ?
Oui, depuis 45 ans.
45 ans ?
Mmh. T'as pas vu le style vestimentaire, toujours rock'n'roll, jusqu'à la mort, lui, il a gardé ça.
Ah oui, toujours moi. Bah quoi, c'est mon style vestimentaire de tous les jours, depuis l'âge de 13 ans. Bah moi, je suis arrêté dans les années 50, moi. Je suis loin.
Voilà. Vous avez pas la banane, vous avez un peu de gel quand même dans les cheveux.
Non, c'est moi, c'est graissé, moi, c'est gominé, moi. C'est plaqué. Drapeau du Texas, drapeau sudiste, drapeau américain, je les ai tous portés, quoi. T'avais une grosse banane, t'avais le drapeau sudiste, t'étais un raciste, mais ça, faut arrêter, quoi. Bah oui, les mecs, ils deviennent à la fin rebelles, pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de se faire défoncer la gueule. À titre gratuit, tu te fais démonter, ça veut dire quoi, ça? Faut arrêter. Comme aujourd'hui, maintenant, c'est pire. Maintenant, pour un regard, ils t'arrachent la gueule. Je me suis déjà fait embrouiller, oui, bien sûr.
Mais vous, à l'époque, vous traîniez à la gare avec des skinheads de Juvisy?
Ouais, j'en ai connu, ouais. Ouais, bien sûr. C'était des mecs que je connaissais depuis des années, je vais pas les renier, non?
C'était les mêmes qui se battaient avec les félins.
Au début, on s'est connus, parce que bon, je prends le train, moi aussi, à la gare. Et puis à force, bon, ils ont des looks différents, tu sympathises avec les mecs, et puis voilà. Et quand tu vois qu'au finalement, ils sont pas aussi machins que ça, parce que bon, ils ont des potes robeux, ils ont des potes portugais, ils ont des potes renois. Et j'en connais même un, c'était vraiment le pire s'il sera à l'époque. Et maintenant, il est maqué avec une blague et il a une gosse, il a une fille, il est tout content. Alors que si tu vois le mec, il est tatoué de partout. Quand tu vois le loustique, mon gars. Et la plupart qui sont devenus skins, c'est parce qu'ils se sont fait démonter tellement la gueule quand ils étaient mômes qu'ils sont retrouvés dans des parties comme ça. Voilà, c'est tout. Pour certains que je connais. Hein.
Je comprends pas. Vous êtes d'origine maghrébine.
Ouais.
Et vous traîniez avec des gens qui étaient racistes.
Bah, traîner, ils venaient nous voir à Grigny. Et au centre commercial, à Grigny 2, il n'y avait pas. C'était blindé. Mais tout le monde les connaissait. Tu vois? Aussi bien les Renault, machin, jamais vraiment d'embrouille dans le centre commercial.
Avec les félins, il y avait des embrouilles entre les skinheads et les félins. C'est tapé dessus quand même.
Ah, mais bon, moi, j'avais rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu veux, des faits divers, t'en as tous les jours. Hein. Du moment qu'avec moi, il est respectueux, il me respecte, c'est bon, il est où le problème? Voilà, du moment que t'es cool, tu tiens un carreau, t'es bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu veux te gonfler, va te gonfler ailleurs, mon gars, sinon tu vas te faire gonfler ici. Si tu bats trop des ailes, ils vont te les couper. C'est tout, c'est clair. Salut, Miss, comment va?
C'est quoi ton blague?
Ça te bleu,
hein. Ça douille.
Ça douille.
Ah là. Moi, c'est pas moi, tu vois. En plus, c'est même pas comme ça qu'on dit.
Pas de ching ou c'est quoi?
Ah, mais j'ai sorti.
T'as pas les dans
la bac? Dans
la bac, elle est avec moi, t'es fou. Non, il y a la bac qui te.
Ah ouais?
Bonjour, vous allez bien?
Ça va et vous?
Ouais, ça va.
Lui aussi, t'as un deuxième de la BTG là-bas.
Qui arrive là?
Ouais. Lui, c'est un de mes petits. T'as fait des bêtises, mais on s'aime bien quand même. Hein?
Je m'appelle Smo.
Smo?
Ouais, Smo. 20 ans, issu de Grigny. Voilà, tout plein de bêtises, hein. Les gens, ils connaissent.
Je suis pas parti en prison, mais j'ai du sourcil. J'ai du gros sourcil. Et aujourd'hui, j'essaie de me tenir à carreau pour pas que mon sourcil tombe. Faut pas dire c'est des vieilles choses, parce qu'il peut te le faire tomber à n'importe. Moi, j'ai 5 ans. Moi, je suis à 5 ans, là. J'ai déjà fait... J'y vais sur ma troisième année. Et tous les jours que la vie passe, ben, j'espère que ça... Je veux que ça passe vite comme ça, je pourrais faire ce que j'ai à faire. Ouais, je pourrais faire ce que j'ai à faire. Mais là, pour l'instant, j'essaie de me tenir à carreau. J'ai un sourcil face au keuf pour outrage et rébellion.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Je ne vais pas dire que je suis innocent, parce que si je dis que je suis innocent, on ne va pas me croire. Ben, ils ont voulu abuser de moi. Moi, j'ai un caleçon, en dessous de mon caleçon, il y a des parties intimes que je respecte. Ben, eux, ils n'ont pas voulu respecter mes parties intimes. Je n'ai pas voulu me laisser faire.
Ils ont voulu faire une fouille au corps dans la rue?
Une fouille au corps qui t'est pas méritée. Parce qu'ils ont vu que j'étais en règle. C'était en gare. J'étais à Juvisy, j'avais ma carte. Et en plus, moi, ma carte, moi...
C'est rare, maman,
c'est rare, voilà. Moi, ma carte, moi, j'ai pas, moi. Moi, la carte imaginaire, pour moi, c'est vraiment imaginaire. Je la connais pas, la carte. Mais là, ce jour-là, j'avais ma carte. Je passe devant eux, ils me voient, et puis, Ziac, contrôle. J'ai ma carte d'identité, j'ai ma carte, tout est là. Pourquoi tu veux me contrôler? En plus, c'était à l'école, à l'époque où j'allais à l'école. J'ai arrêté l'école il y a pas trop longtemps, bon. Et vas-y, ils ont voulu faire les malins, je me suis pas laissé faire. On est parti un peu en cafouillage et après, on m'a ramené au commissariat, j'ai eu un jugement, ils m'ont mis du sourcil. Et après, j'ai fait encore plein de bêtises. J'ai fait des autres bêtises qui fait que j'ai un autre sourcil aujourd'hui. Ça, c'est bon, vas-y, ça, c'est des trucs que je peux pas trop dire parce que après, c'est pas trop bon. Hein.
À la poêle.
Voilà. C'est nous les fautifs. Je vais pas dire que je suis innocent parce que dire innocent aujourd'hui, je viens de dire que je suis innocent, c'est pas possible, ça sonne faux. Donc, je préfère dire je suis fautif. Voilà. Je suis fautif. Mais au fond de moi, je sais que je suis pas fautif. C'est dur à croire. Hein. C'est un moment de jeunesse. Tout le monde a son moment de jeunesse. Voilà quoi. Même, je ne vais pas vous mentir. Ça trouve... Mon père aussi s'est déjà battu. Tout le monde s'est déjà battu. Hein. Voilà.
Ils font quoi vos parents?
Mes parents, ils travaillent. Hein. Mon père, il travaille en logistique. Ma mère, elle est femme de ménage. Voilà quoi. C'est pas facile. Et à moi, c'est moi l'aîné. Et voilà, moi si j'aide, je pousse derrière pour que ça aille mieux, pour que tous les jours que je fais, on ait le sourire, qu'on soit pas malheureux, même dans les moments qui sont durs. Voilà, qu'on sente l'épaule aller là, quoi, c'est ça.
Y a pas un petit billet pour tout ça?
Ah, non.
Passez le message. Merci, c'est une faveur. Bientôt dans les bacs. Tout le monde est là. Bosco est là.
Vinca est là.
Scarra est là.
Tout le monde est là. Tout le monde est
là. On se met sous l'arbre, du coup. Bon, et vous faites quoi dans la vie pour vivre, justement?
Finalement, on travaille de notre côté. On est tous des intérimaires, on est tous des débrouillards, on essaie de se débrouiller. Un peu d'intérim, un peu de tout, même du black.
Des petits boulots, moi franchement, je ne travaille pas à l'intérim, j'aime pas l'intérim. Moi j'aime direct chantier, j'aime bien des trucs physiques. C'est-à-dire tu te casses, le dos c'est pas pour rien, t'as tes 90 euros à la fin de la journée ou tes 110 euros, tu rentres chez toi. À la fin, t'as un bon billet. Maintenant il y a un travail bien payé, il n'y a pas de galère. Mais il n'y a pas de travail. Moi, sinon, tout ce que manuel, j'ai fait. Réparer ta voiture, je peux la réparer, je la répare. Faire papier peint, la peinture, monter ton meuble, faire toute ta cuisine, je te la fais. Sans diplôme, pas de CAP, pas de bac, rien du tout. Il faut être débrouillard, sinon c'est la merde.
C'est les mots qui t'ont
appelé
comme ça.
Et par mois, vous gagnez combien à peu près?
Par mois, ça dépend. Ça peut aller vite. Hein. C'est comme pendant un mois, tu peux pas avoir un salaire. Et le mois prochain, tu as 2000 euros. Comme si tu as 1000 euros, tu as 500 euros.
Le loyer, c'est tous les mois qu'il faut le payer.
Le loyer, ça...
Ah, il y a des attardements. Ils te laissent pas payer, mais à un moment, faut sortir.
Ben ouais, ça, ils ne nous disent pas. Il y a les attardements. Ça paye pas, mais ils vous laissent. Jusqu'à ça fasse une grosse somme, qu'ils savent que tu vas sûrement pas payer, comme on dit, avec les amendes. Et là, ils vous expulsent.
Va multiplier, tu vas jamais t'en sortir.
On n'est pas à l'abri, on ne sait pas. Là où je suis, ce n'est pas le luxe aussi. Hein. Vous voyez très bien aussi. Voilà. La pilule qui vraiment, c'est quoi la pilule, hein?
La pilule
c'est
rose, avec. Elle a été mise.
C'est quoi la pilule rose aussi? C'est
elle a été mise.
Quand tu te manges une amende. Ouais, Blerny, ouais. T'as une amende de 45 euros. Dans les 15 jours qui suivent, tu la payes pas. Ça monte à 90 euros. Et quand ça monte, quand tu payes pas celle de 90 euros, un an plus tard, c'est 15 000 euros. C'est de la carotte.
Une amende, pourquoi? C'était genre un PV de voiture qui est à 45 euros.
Un PV de voiture, une amende de. Quand tu montes dans le bus. Il y a des frères, des vieux à moi, ils ont des amendes de 20 000 euros, 15 000 euros, et ils doivent le payer toute leur. Elle est à cause de ça. Parce que.
5 ans, 6 ans, il faudrait qu'ils coffrent juste pour l'État.
Comment tu veux pas aller faire des trucs comme ils disent, on fait du sale, des trucs abusifs? C'est la crise. On est obligé de, à un moment, de mettre la cagoule, prendre les gants, prendre le truc et aller. Après, t'arrives de bourbier. Mais toi, t'as rendu ton compte, t'as accompli ta mission. Mais non, c'est la merde. On est dans un monde, c'est bordélique. Tout le monde cherche à manger et il n'y a plus rien à manger. Et on va voir dans pas longtemps, ça va être la merde.
On est tous à l'attente. Là.
Nous, on est tous à l'attente, on a tous ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim grave.
On est comme des renards. On attend juste seulement quand la France elle va partir en couille d'ici quelques années, vous allez voir. Tout ça là, ça va devenir chaud. De toutes les manières, de toutes les façons, on va le faire cette putain de maille. Nous aussi, on veut se mettre au burn. Nous aussi, on veut voir notre famille heureux. Même que nous, on n'est pas heureux, tant que la famille derrière, ils sont bien, nous, on s'en bat les couilles.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est comme ça. C'est la vie. Nous, on n'a pas des hélicoptères, on n'a pas de villa. Regarde où on habite, et c'est nous qu'on nous critique, et c'est nous qu'on se fait salir. Et c'est nous qu'on nous met des amendes, et c'est nous qu'on paye leur putain d'amendes. Comment on fait?
C'est voilà, de la quoi. Carotte, l'État. Hey, la crise, il n'y a pas de crise, la crise, elle n'existe pas.
La
crise, elle n'existe pas. C'est eux, ils ont tout mis dans leur poche. Ils ont tout mis dans leur poche, ils ont dans une île, là, eux, là-bas, tu sais pas où. Ils se retrouvent tous entre eux, là. Ils ont tous leur argent. Attendez, ils ont tous leur argent, wesh, mon pote.
On va faire comme les pirates y font. Comme les pirates y font, maintenant ils veulent quoi? C'est la crise maintenant, c'est la crise. On va se manger entre nous. Tu vas venir, tu vas manger ton ami. Nous, on ne peut pas détourner comme eux. Nous, on fait quoi? On reste dans notre quartier, on préfère faire notre marché. Mais ça les dérange. Maintenant, on va trouver une méthode, on va venir chez eux maintenant. C'est tout simplement.
C'est des corrompus.
On va aller manger eux, on va aller chez eux, et là, on va traumatiser.
Alors voilà, il y a le moment où les bandes ou les gangs, comme on voudra, s'affrontent entre eux. Et puis, petit à petit, les idées font leur chemin. Et il y a une amorce de politisation, les primitifs de la révolte. C'est la qualification que les historiens ou les sociologues peuvent employer dans des délires un peu romantiques. Aussi, c'est vrai qu'on charge très souvent et si souvent, depuis si longtemps, la classe populaire d'un tas de vertus et de missions à accomplir. Le mieux, c'est d'écouter encore les jeunes du quartier populaire de Grigny à la Grande Borne. Grigny, Gang Story.
Aujourd'hui, quand on est jugé, franchement, on trouve ça trop ridicule parce qu'eux ne méritent pas de nous juger parce qu'eux-mêmes, ils sont trois fois plus corrompus que nous. Et on le sait tous. Normalement, c'est nous, on devrait les juger. Voilà. Normalement, c'est le contraire. C'est le contraire parce que nous, je crois, on est des anges face à eux. Même François Hollande, dans 4 ans,
quand ça serait les électeurs et les élections, on va entendre qu'il a fait une dinguerie. Sarkozy, avant qu'il soit plus président, on a entendu Bettencourt. C'est tous des corrompus, on sait tous, c'est des corrompus, on le sait. On le sait. C'est pour ça que nous, on respecte rien. On a nos lois à nous, on respecte que nos lois à nous. Leurs lois, eux, qu'ils aillent la, ils aillent la mettre où on pense. C'est tout ce qu'on a à dire. Voilà, c'est ça. On vit à notre façon.
Voilà.
On ne veut pas écouter leur façon. Ni on vit avec notre, écouter, avec nos propres lois. On vit avec les lois du jeu, qui veut dire le game. Et avec ça, on vit bien. On s'entend bien. On se respecte bien. S'il a ceux-là qui déconnent, il déconne avec une personne, ben, il a son souci à régler. Pas avec la justice, mais entre nous-mêmes. Pas besoin de la justice. On fera juger juste quand on sera plus sur terre.
Il faut pas
la guerre des gangs aujourd'hui, c'est face à l'État. Les jeunes qui font, c'est face aux policiers. À Grigny, c'est face aux policiers. Parce que pour nous, les policiers aussi, c'est des mecs du quartier parce qu'ils sont tous les jours dans le quartier. Eux, ils ont leur gang, c'est l'État. Nous, on a notre gang, c'est le game.
Vous
voilà.
Êtes, on dirait du game. Et le game, comme on parle, c'est tous les quartiers de la France. Tous les quartiers de la France.
Quand les skinny, ils sont fait chasser, là. Ils sont fait chasser des gars, tout ça. Ils sont partis où? Ils sont partis où? Faut pas croire, ils sont partis. Ouais, ils sont allés dans leur maison. Eux aussi, ils veulent du travail. Hein. Mais travailler pour quoi? Ils ont mais travailler pour se remettre face aux noirs, pour refaire de la discrimination, voilà, en calme. C'est eux-mêmes, les policiers, c'est pourquoi eux-mêmes. Le Pen, c'est des skins. Regardez leurs chemises. En dessous de leurs chemises, il y a tout plein de tatouages. On le sait. Les skins, c'est l'État. Les skins, c'est l'État. C'est eux qui contrôlent aujourd'hui. Nous, on veut les prendre en sandwich. Eux, c'est les jambons et nous, c'est le pain. C'est ça le gangbang.
C'est parti, voilà. on y va, c'est parti dans le gangbang là. Sinon, gang là, les gangs là, il n'y a pas de gang. Ici à Grigny, on a tous la haine contre l'État. Nous, on est des soldats sans grade. Voilà. Ils ont des patins, nous, on n'en a pas. Voilà. Mais nous, on est chaud pour y aller.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Prendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage
et la frustration
empêchent
en leur réflexion.
Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions? Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77. J'ai accompagné de dire à côté de mystiques réagissent.
Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lustre de la justice.
Strictement
hardcore.
La jeunesse est désespérée, elle est
hardcore.
Et rien ne pourra l'arrêter.
Quoi qu'il arrive, nous saurons aussi nous défendre.
Car tu ne te doutes que tout vient ta boîte à qui c'est t'attendre.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Attendez,
Don Cisco, aujourd'hui, vous êtes toujours un félin ou c'est fini
Bah, aujourd'hui, je suis devenu un blague pontos. J'ai des choses à faire. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est, je vous dis, le droit civique. Quand vous voyez, par exemple, on a Tobira qui nous représente. Je la remercie énormément, c'est longtemps ça. Merci encore, lâche pas l'affaire. Parce que qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? C'est qu'elle représente tout ce qu'on a fait, toute notre démarche. C'est-à-dire que demain, on peut se positionner. Après, vous avez les Kerry James, c'est d'autres personnes, tous les rappeurs. C'est des personnes qui représentent ce qu'on a combattu. C'est-à-dire qu'on ne se laissera pas faire. On est chez nous aussi, ici en France. Ce n'est pas terminé pour eux. Donc, ce n'est pas terminé pour nous. Celui qui croit que c'est fini, il s'endort pour rien. Ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il a? C'est pour moi, c'est juste une branche armée, ce n'est pas grave. Mais ce qui est plus grave, c'est l'extrême droite assise, posée dans des bureaux. C'est les pires skinheads. C'est eux les skinheads. C'est pas les mecs qui sont dans la rue. Ils ont des structures assez importantes maintenant. C'est des chefs d'entreprise, c'est des cadres, c'est des gens dans la police, c'est des gens dans les bureaux. C'est des gens qui nous empêcheront au niveau de l'emploi d'avoir ce qu'on veut. C'est des gens qui ne nous laisseront pas faire ce qu'on veut. Donc nous aussi, on essaie de s'organiser. On essaie d'être propre dans ce qu'on fait, de donner aussi aux jeunes qu'on connaît une autre pensée que de se battre, d'avoir des... C'est des délinquances gratuites qu'on montre à la télé. Non. Apprendre, hein, toujours. Tobira, elle, par exemple, elle vient, elle a un pouvoir parce qu'elle a été à l'école, parce qu'elle maîtrise et parce qu'aujourd'hui, elle a un niveau. Bah, pourquoi ne pas reconnaître tout simplement qu'elle a le niveau? Bah, parce qu'il y a du racisme depuis le début. Au niveau administratif, c'est pareil. On peut pas prendre un poste, on a quatre murs à monter. Par exemple, demain, je vais être journaliste. Mais je vais pas avoir la même possibilité que vous. Vous allez passer, moi, je vais pas passer. Je vais aller à l'NPU demander un boulot, on va m'envoyer sur un chantier qui n'a rien à voir avec mes diplômes. Donc vous voyez bien qu'il y a encore un problème. Au niveau administratif, c'est pas encore. On n'a pas passé le cap. Donc le combat n'est pas fini. La France nous appartient autant à nous qu'à tout le monde. Quoi. C'est chez nous aussi. rester chez nous, tant pis pour ceux qui sont à Cancun. On fait partie de la matière.
C'est dangereux ça.
Mais voilà, bah, il levait le terre, quoi, Charles. Voilà, c'est vous devant.
Merci Kizo, merci Sid et Don Cisco. Merci Smo, merci K, merci à toute l'équipe de la BTG. C'était Grigny Gang Story, reportage de Charlotte Perry. Demain, la suite à lire Gang Story, des textes de Kizo et des photographies de Yann Morvan à la manufacture des livres. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez sur le site là-bas.org, là-bas.org, réécouter cette émission et puis faire un tour aussi sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson et Julien Chabassu. C'est Jérôme Chélieu, c'est Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis, toujours à Grigny. Je vous laisse avec Hervé Pochon, avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue à la FTCR, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, en compagnie de Mohamed, Mohamed et Soumaré. Alors là, il y avait une réunion autour des vieux migrants. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, au cours de cette réunion, concrètement ?
Les migrants, ils ont passé 30 ans, 40 ans dans leur vie ici. Après, ils vont rentrer au pays et c'est des gens qui arrivent à un âge assez déprimé. Ils sont dépendants des autres personnes. Ils essaient de trouver des repères. Et ils ne peuvent pas partir au pays parce qu'ils reçoivent une partie de leurs revenus sous forme d'allocations liées à leur présence réelle ici. Et s'ils passent au-delà de 4 mois ou 5 mois en dehors de la France, et donc on leur enlève ces allocations-là. Nous-mêmes, on est, l'a dit, là, on est dans les deux rives, mais on est ici, on est là-bas. On est ici, moi je suis là 11 mois, et je rentre un mois en vacances pour me ressourcer, pour retrouver, pour réparer, pour voir la famille, pour voir les mariages, les fêtes, les décès, des choses comme ça. Donc il y a les attaches, et on retourne, on apporte, et on est toujours ici et là-bas. Et les vieux migrants, c'est encore plus en Suisse. Certaines personnes sont isolées, qui ont passé 40 ans ici et qui n'ont plus de repères là-bas. Ils deviennent dépressifs, qu'on peut manipuler, instrumentaliser. Ils ont tellement peur de se de parler qu'ils se font bouffer. Voilà. Oui. Je voulais ajouter quelque chose pour lui. C'est un grand artiste, c'est un musicien. Et il anime aussi une association sur la culture et l'art. Il produit des CD, des chansons qui nous rajeunissent et ne nous rajeunissent pas. Voilà.
Pourquoi vous rajeunissent pas ? Parce que c'est les chansons de l'ancien temps ?
C'est les chansons de l'ancien temps. Malheureusement, on a cru que les choses ont bougé favorablement. On y a beaucoup rêvé, on a beaucoup cru. On a été un peu trempé, mais on est aussi confiant dans notre capacité de transformer les choses ici et là-bas.
Quand vous dites on a beaucoup espéré, on a beaucoup cru, c'est par rapport à la Tunisie.
Par rapport à la Tunisie, effectivement.
Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça aussi en France. On a beaucoup cru que ça allait changer, et puis ils sont un peu déçus. Est-ce que vous aussi, vous êtes déçus ici de comment les choses ont évolué depuis l'élection de François Hollande ?
Oui, on est déçus. On se bat en particulier sur la question du droit de vote des résidents étrangers. Je vais vous rappeler, je ne sais pas si vous l'avez vu l'émission, mais moi je l'ai vu dans le débat avec Nicolas Sarkozy, les candidats et les deux candidats, et il lui disait comment il allait faire le droit de vote. Il va essayer d'avoir la majorité des 3/5. S'il ne l'a pas, il va consulter les Français par un voie référendaire. Et après, donc, il a dit tout le monde était content. Donc voilà, on s'attend à ce qu'on puisse voter en 2014. Et il avait tout le temps et tout la majorité pour pouvoir le faire. Et du coup, donc là, il y a un recul énorme par rapport à cette proposition qui est symbolique, qui ne coûte rien, qui ne coûte pas aux contribuables, qui prend en compte plus la présence de ces vieux migrants ou de ces jeunes migrants qui font partie de la population, qui font partie des contribuables, sont tous ceux qui payent la TVA. Et quand on va au supermarché, on paye la TVA et on veut participer à la gestion de cette TVA qu'on donne aux collectivités locales, qu'on donne on aime payer les impôts parce que les impôts nous protègent. On aime payer la TVA, on veut simplement gouvernement que le droit de vote soit instauré. Moi, un Lituanien qui arrive aujourd'hui en France peut, il reste, au bout de 3 mois, il peut s'inscrire, il peut voter, il peut être élu au prochain municipal. Moi, je contribue énormément dans les associations, dans la cité, je connais bien les problèmes de quartier, je connais bien et on fait beaucoup ce travail-là, et on ne peut pas voter.
Aujourd'hui, vous travaillez où exactement ?
Je suis praticien attaché associé, et l'association, la FTCR, nous a accueillis quand on a fait un jeûne de 7 jours pour attirer l'attention qu'il y a de la discrimination vis-à-vis des médecins étrangers. C'était la FTCR et pas un autre espace qui nous a accueillis, oui. Et nous a soutenus, et c'est pour ça que la solidarité associative en particulier, elle est très très importante, et on essaie de restituer un peu ce que les autres nous donnent.
Et tout à l'heure, Mohamed, il a dit que vous étiez un artiste et tout, vous chantez ?
Oui, je suis aussi, j'ai une autre casquette, donc je suis musicien, je suis compositeur, chanteur, je joue du luth. إنني عدت من الموت لأحيا وأقاوم علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي وأمشي وأقاوم.
Et ça veut dire quoi?
Je marche sur ma blessure. Donc les fouets ou bien les coups du bourreau m'ont appris de marcher sur mes blessures, marcher et résister.
Et ça, c'est vous qui l'avez écrite ?
Non, c'est le texte, les poèmes de Mahmoud Darwish,
d'accord.
Le célèbre poète palestinien. Mais je l'ai composé et elle est sur mon CD.
Et alors votre CD, Mohamed Bar, B-H-A-R.
Vous trouvez la musique de Mohamed Bar.
D'accord. Et donc je le rappelle, cette marche, la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui a 30 ans et elle aura lieu le samedi 7 décembre à Paris.
On célèbre les 30 ans et on ne s'arrête pas à la célébration. C'est ça ce qui est intéressant dans ce collectif et dans cette. Parce que, en fait, on célèbre les 30 ans parce que on salue énormément, avec beaucoup d'humilité, tous ceux qui ont initié cette marche. C'était des curés, c'était des étrangers, c'était des fils, c'était des Français de deuxième génération, c'était des gens qui aidaient. Basta, arrêtons le racisme, arrêtons la haine, nous demandons l'égalité.
Bon ben, je vous remercie.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Dans le cadre de l'affaire Tapi, Stéphane Richard sera jugé devant la Cour de discipline budgétaire et financière en janvier ou février, dit-on aujourd'hui de sources proches du dossier. La CDBF est une juridiction en fait associée à la Cour des comptes et elle est chargée de réprimer les infractions commises en matière de finances publiques. Le patron d'Orange fait déjà l'objet d'une mise en examen dans ce dossier. À l'époque du règlement du contentieux Tapi Lyonnais Adidas, il était directeur de cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'économie, quand l'arbitrage donc a été décidé. Arbitrage qui a permis à Bernard Tapie d'obtenir plus de 400 millions d'euros pour régler son litige avec le Lyonnais sur la revente d'Adidas. Les poneys à l'assaut des autoroutes, les responsables des centres équestres lancent un nouvel appel à manifester pour lundi. Ils continuent de protester contre la hausse de la TVA en janvier. À vos agendas, donc, les autoroutes A13, A6 et A4 seront bloquées par des opérations escargots de 6h30 jusqu'en fin de matinée lundi. Les différents convois vont converger en fait vers Villepinte en Seine-Saint-Denis. C'est là-bas que doit se tenir le salon du cheval. Le Conseil d'État rejette la requête d'une famille du Loir-et-Cher. Elle réclamait à l'État d'ordonner le placement de leur fils autiste sévère dans un établissement spécialisé car il n'arrivait pas à trouver de place en IME, en Institut Médico-Éducatif. La haute juridiction administrative a considéré qu'il n'y avait pas là de carence caractérisée. L'enfant de 6 ans bénéficie d'une prise en charge à domicile de 4 heures par semaine. Dans le reste de l'actualité, François Hollande est arrivé aujourd'hui à Madrid. Le chef de l'État doit y rencontrer le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, pour trouver une position commune à l'approche des échéances européennes sur l'union bancaire. Il s'agit de parer à toute nouvelle crise bancaire au sein de l'Union européenne. L'Iran et la Turquie appellent aujourd'hui à un cessez-le-feu en Syrie avant le rendez-vous de Genève en janvier. Les chefs de la diplomatie iranienne et turque l'ont dit ensemble lors d'une conférence de presse conjointe aujourd'hui à Téhéran. Nous ne devrions pas, disent-ils, attendre 2 mois pour interrompre les combats. Ils doivent cesser. C'est ce qui mènera au succès de la 2e conférence internationale de paix. La coalition de l'opposition syrienne est, elle, prête à se rendre en Suisse, mais à condition que Bachar el-Assad n'y joue aucun rôle dans la phase transitoire. Le régime syrien lui exclut totalement le départ du président avant l'élection présidentielle prévue l'an prochain. La vie politique de Silvio Berlusconi devrait prendre fin cet après-midi. L'ancien premier ministre italien est sur le point d'être expulsé du Parlement. On attend vers 18-19 heures le vote des sénateurs. Cela fait suite à la condamnation cet été de Silvio Berlusconi pour fraude fiscale. S'il devait être exclu du Parlement italien, cela mettrait fin à 20 ans de vie politique pour Silvio Berlusconi. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les dimanches.
Mais oui, mais c'est trop facile, ça.
À 20h10.
C'est trop propre.
Le masque et la plume.
Je t'ai pas donné la parole, mais tu la prends quand même.
Oui, non.
Jérôme Garcin.
Allez, avançons, on a plein de livres à évoquer ce soir.
Littérature.
C'est tous les clichés, tous les rouages habituels.
Cinéma.
Il y a une scène finale.
Théâtre.
Extraordinaire.
Ah oui, on peut pas raconter
la
projection du film.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la plume.
C'est grandiose, tu respires.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour de nouvelles informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener en promenade avec Carlo Maria Giulini, grand chef d'orchestre italien qui était né en 1914, qui nous a quitté en 2005. Et on vient de rééditer chez Warner Classics pas mal de ses enregistrements. Là, il y en a un devant mes yeux. Ce sont les années londoniennes de Giulini. Il a beaucoup travaillé. Il a travaillé en Amérique, dans le monde entier. Giulini a été vraiment adulé par les musiciens, par le public. Il était grand, il était beau, il était charmeur, très, très musicien. Avant tout, un de ses rares chefs à être vraiment et totalement admiré par aussi bien les artistes que les mélomanes, et tout le monde applaudissait son intégrité artistique, les musiciens d'orchestre adoraient son humilité, les chanteurs vénéraient sa sensibilité, et le public s'émerveillait, oui, de sa prestance de physique, son physique de jeune premier, et son aura aussi, parce que ce sage qui connaissait la musique vraiment de manière absolument extraordinaire n'imposait jamais rien, comme a dit une choriste de l'Orchestre de Paris. Il faisait quelquefois monter des crescendo de manière incroyable. Il partait d'une petite nuance jusqu'à une très 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 forte. Et ceci sans asséner des coups à la musique comme font d'autres patrons d'orchestre. Alors on a dit parfois que Giulini était un peu trop réservé. Il était dans la vie, c'est vrai. Un peu trop calme aussi à la baguette. Ça n'est pas toujours vrai. Et notamment dans ses années assez anciennes, ses années de jeunesse. C'est vrai qu'après il a commencé à diriger plus lentement, comme beaucoup de chefs d'ailleurs, mais voici beaucoup d'énergiques malices, je dirais, dans une symphonie qu'il aimait beaucoup, la symphonie La Surprise de Haydn. Je vous en propose le final, Allegro di molto.